principe actif. Une rediff quoi.
Actif 102.4 à Évreux, 95.9 à Verneuil-Breteuil et en DAB+, nouvelle technologie. Vous écoutez De vous à nous, on vous dit presque tout. C'est notre dernière émission de la saison et le contenu est un petit peu différent. Quatre sujets ont été déjà traités depuis 2019 ont été choisis et nos gentils reporters ont travaillé en binôme. Et comme au cinéma, ils font des dialogues, des flashbacks entre la vision du thème que l'on en a aujourd'hui et celle que l'on en avait il y a 30, 40 et 50 ans en arrière. Les sujets retenus sont la mode avec Michel et Sylvie, le tourisme avec Anne-Marie et moi-même, l'amour et les sentiments avec Florence et Michel et l'alimentation avec Gertrude et MC. Sujets très divers, comme on le voit, mais qui ont fortement évolué et ont changé notre vie. Il ne s'agit pas de nostalgie, surtout pas, ni de « c'était mieux avant hein ». D'abord parce que nous avons vécu ces époques en tant que baby-boomers et nous allons vous exposer nos visions et nos souvenirs. Il y aura des pauses musicales, des pubs iconiques de ces époques. Venez voyager dans le temps avec nous. Et bonne émission à tous.
Coordonnées, 3 francs.
Ah, les dîmes, pour des jambes sublimes. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler mode. Un sujet que je maîtrise parfaitement, puisque je suis, comme chacun le sait, présidente honoraire de l'Académie internationale du bon goût.
Créée quand ?
Il y a environ 3 minutes.
Ah, une vieille institution, donc.
Pour ce débat, j'ai invité Josiane, témoin direct des années 70.
J'aime bien le mot « témoin ». On dirait que j'ai survécu à une catastrophe naturelle.
Bah, quand on voit certaines photos de l'époque, le doute est permis. Hein.
Je sens que ça va être agréable.
Soyons honnêtes, les années 70 ont tout de même été une période difficile pour la rétine.
Pourquoi ?
Bah, parce que personne n'avait encore compris qu'une chemise à fleurs orange n'était pas obligée d'être portée avec un pantalon violet et des lunettes jaunes.
Peut-être, mais aujourd'hui, j'ai vu une influenceuse porter un jogging, des escarpins, une veste de tailleur et une casquette de baseball.
Ça, c'est du mitch and match.
Dans mon village, on appelle ça s'habiller dans le noir.
Bon, il faut reconnaître que les années 70 avaient un style très particulier. Les chemises à fleurs, les vestes à franges, le daim, les foulards et les lunettes géantes.
Et les chemises brodées façon bohème.
Celles que les boutiques présentent aujourd'hui comme la tendance de l'été ?
Exactement. À chaque fois que je passe devant une vitrine, j'ai l'impression que quelqu'un a cambriolé mon armoire de 1974.
Et sans oublier les fameux pantalons pattes d'éléphant.
Ah, les voilà !
Ces pantalons tellement larges qu'on pouvait transporter les courses de la semaine.
C'est drôle parce qu'aujourd'hui ils sont revenus.
Pas du tout.
Ah bon ?
Aujourd'hui, on appelle ça un jean flair.
Donc, vous reprenez exactement le même pantalon, mais en anglais.
Eh, c'est la magie de la mode.
Je commence à comprendre le principe. Tout revient, mais sous un autre nom.
Oui, mais en revanche, il y a une chose que les années 70 n'avaient pas inventée. le croque-top.
Tu plaisantes ? Dans les années 70, on montrait déjà son nombril.
C'est vrai ?
La différence, c'est qu'à l'époque, on appelait ça un haut court.
Ben, aujourd'hui, on appelle ça un croque-top.
Encore une preuve que traduire un vêtement en anglais augmente immédiatement son prix de 30%.
Ouais. Et puis j'entends souvent dire que les vêtements sont de plus en plus courts.
C'est vrai que certains shorts actuels me laissent perplexe.
Ah, on hésite parfois entre un short, une culotte et un malentendu.
C'est amusant parce que les gens oublient que dans les années 70, la mini-jupe faisait déjà scandale.
Eh, comme quoi, Josiane, à chaque génération, on croit avoir inventé l'audace.
Et à chaque génération, les parents trouvent que c'est une catastrophe.
Oui, oh, les années 70 ont aussi accompagné une évolution importante. Les femmes se sont appropriées le pantalon dans la vie quotidienne.
Oui, et plus largement, on voulait davantage de liberté dans la façon de s'habiller.
Donc, finalement, certaines choses qu'on présente aujourd'hui comme révolutionnaires ont parfois commencé il y a 50 ans.
La mode adore faire croire qu'elle invente tout.
Parlons maintenant des influenceurs.
Ah, vaste sujet.
Ils lancent les tendances.
Dans les années 70 aussi, on copiait les célébrités.
Les chanteurs, les acteurs, les stars de télévision.
Exactement.
Donc finalement, c'est pas nouveau.
Non, la différence, c'est qu'avant, on savait pourquoi les gens étaient célèbres.
Aujourd'hui, pourtant, on nous encourage à avoir notre propre style.
C'est vrai. Mais pour avoir son propre... C'est vrai. Pardon.
Pour avoir son propre style, il faut regarder les mêmes réseaux sociaux, suivre les mêmes influenceurs et acheter les mêmes vêtements.
Finalement, tout le monde veut ressembler à quelqu'un qui veut ressembler à quelqu'un.
Oui, bon, eh bien parlons chaussures.
Avec plaisir.
Les années 70 ont quand même inventé les sabots.
Oui.
Je pensais qu'on ferait jamais pire.
Et puis quelqu'un a inventé les crocs.
Objection acceptée.
Et puis les accessoires ont changé.
C'est vrai.
Nous, on avait un foulard, un sac et quelques bijoux.
Aujourd'hui, certains sortent avec une montre connectée, des écouteurs sans fil, un smartphone, une batterie externe et une gourde de randonnée.
On ne s'habille plus, on s'équipe.
Sans parler des sacs à main.
Ah oui.
Certains sont tellement petits qu'on ne peut même pas y mettre ses clés.
Non, nos sacs servaient à transporter des choses.
Quelle drôle d'idée. Et les coiffures ?
Les années 70, c'était la liberté. Cheveux longs, boucles naturelles, volume...
Ben aujourd'hui aussi, il y a du volume.
Oui, mais maintenant, il faut 3 tutoriels, 2 sprays texturisants et une vidéo sur les réseaux sociaux pour avoir l'air décoiffé.
Pas faux.
Nous, un coup de vent suffisait.
Bon, il y a tout de même une nouveauté. Aujourd'hui, on parle beaucoup de mode durable et d'éco-responsabilité.
Ça me fait sourire.
Ben pourquoi ?
Parce que dans les années 70, quand un pantalon était usé, on le raccommodait.
Eh bien aujourd'hui, on l'achète déjà usé.
Et on appelle ça une tendance.
Oui, oui. Finalement, entre les années 70 et aujourd'hui, qu'est-ce qui a vraiment changé ?
Les noms.
Comment ça ?
Les pattes d'éléphant deviennent des flares. Les hauts courts deviennent des crop tops. Les fripes deviennent du vintage. Les vedettes deviennent des influenceurs. Les vieilles modes deviennent de nouvelles collections.
Oui. Finalement, la mode est un peu comme un traducteur.
Comment ça ?
Bah, elle prend de vieilles idées,
lui donne un nom anglais
et la revend 3 fois plus cher.
Comme quoi la mode change beaucoup.
Hey, mais peut-être un peu moins qu'on ne le croit.
Jolies filles, des têtes d'acné, animaux, la famille.
ben vous venez d'entendre un titre d'actualité. Tomber la chemise de Zebda.
T'es prête?
Hein?
Je te disais, je me lance.
Quoi?
Je me lance. Australie.
Ah non, pas encore.
Ben, on tombe dessus, c'est le jeu, ma pauvre Lucette.
T'as pas autre chose?
Alors on va relancer la boule.
Hein?
Loto, à qui le tour?
Eh bien, cette pub de 2002 est-elle toujours d'actualité? Je sais pas, hein, franchement, j'en doute. Hein. Parce qu'en près de 25 ans, le tourisme a beaucoup changé. Comment et quand le tourisme a-t-il pris autant d'ampleur que maintenant? En fait, quelle est la définition vraiment du tourisme? Et donc du touriste, hein, parce que si on remonte à 40 ou 50 ans en arrière, ça a beaucoup évolué. Qu'est-ce que tu en penses, toi,
oui,
Marie?
Ben, oui, effectivement. Alors moi, je te donne la définition officielle de l'Organisation mondiale du tourisme. Un touriste est une personne qui séjourne plus de 24 heures en un lieu autre que son environnement habituel. Pour info, le mot tourisme vient de l'anglais « tourin ». Et ça a été francisé au 19e siècle.
Oui, mais le concept a beaucoup évolué, changé. Souviens-toi de 1936. On donne aux ouvriers et aux salariés la possibilité de faire comme les patrons et la classe aisée. Ils obtiennent 15 jours de congés payés. Ils découvrent alors le goût des loisirs et des petits voyages.
Ah oui, 1936. Mais c'est un peu plus complexe que ça. Contrairement aux idées reçues, les gens ne se sont pas rués sur les plages dès les congés payés. Non, non. Parce que le concept loisir-tourisme n'entrait pas dans la vie du travailleur. Il a fallu s'habituer à ce vide de travail, même si c'était le paradis, hein, 15 jours payés. Ce n'est que l'année suivante que les loisirs se sont organisés. Et alors, surtout à vélo, en car, qu'on appelait autocar, ou grâce aux 40% de réduction des chemins de fer.
Oui, et puis après-guerre, les gens avaient envie de s'évader, de s'amuser, de découvrir les régions. Puis avec la troisième semaine, puis la quatrième semaine, on avait le temps pour voyager, pour aller voir ce qui se passait ailleurs. C'est à cette époque d'ailleurs que l'État a lancé les grands travaux d'aménagement du territoire. L'objectif était de garder les touristes étrangers sur notre sol, parce qu'ils traversaient la France du nord au sud pour aller en Espagne ou en Italie, beaucoup plus accueillants. Donc, démoustication des zones marécageuses, le sud de la France notamment, construction des grands ensembles immobiliers tels la Grande Motte, et toutes les côtes du littoral y sont passées. Il n'y avait pas encore l'aménagement du territoire. Hein. Et puis, les grands axes routiers. Notre autoroute A13, elle était ouverte en 1960. C'est la première et elle est en Normandie. Le pont de Tancarville aussi, pour les flux venant du Nord, en 1959. Et ne pas oublier le train avec le TGV qui reliait Paris-Lyon en 2 heures au début des années 80.
C'est vrai que les grands axes routiers ont bien aidé à désengorger les nationales. Rappelle-toi la mythique Nationale 7 de Jacques Trenet, surnommée la Route Bleue d'ailleurs, avec ses bouchons légendaires, même si maintenant on les retrouve au péage, ces bouchons. Mais ça faisait partie des vacances et du voyage.
Oui, mais à cette époque, en fait, les vacances ou les congés commencent dès la préparation du voyage. Où aller? Comment y aller? Quoi mettre dans la valise? Quel délai du voyage? Et le ravitaillement? Quoi manger? Où? Quand est-ce qu'on va manger? Mais ça, c'était avant Internet, avant le Covid, le covoiturage, et le développement des voyages low-cost en avion.
Une autre époque, c'est sûr. Surtout que, jusqu'à peu, les vacances n'étaient pas fractionnées comme maintenant. On prenait la totalité des congés. D'ailleurs, on se rappelle, la France était en état de mort cérébrale au mois d'août. Hein. Tout était quasiment fermé. La toile de tente dans le coffre ou sur le toit de la voiture, et c'était parti pour tout le mois, souvent en camping, au bord de la mer, parce que la montagne était encore assez élitiste.
Oui, c'est tout à fait vrai, oui. Et puis aujourd'hui, on diversifie le mode d'hébergement entre Airbnb, les campings de luxe, avec les étoiles pour que les clients consomment sur place, les camping-cars, le retour du vélo, les tentes, les caravanes, et puis les maisons de famille avec les résidences secondaires, et tous ces croisiéristes aussi qui débarquent dans les ports. Mais une autre interrogation, pourquoi il y a autant d'étrangers qui viennent visiter la France? Selon les données, on reçoit près de 100 millions de visiteurs ou de touristes par an. Cela représente quand même presque 140% de la population de la France, d'accord? Mais que viennent-ils chercher exactement?
Ah, ce qu'ils viennent chercher, ce qu'ils n'ont pas chez eux. La France a une situation géographique intéressante pour les Européens. Et les liaisons terrestres ou aériennes font le reste. Elle est dotée de paysages variés, forêts, campagnes, très verdoyantes, montagnes. C'est d'ailleurs, on se rappelle, le plus grand domaine skiable aménagé. Elle est bordée de côtes aux noms évocateurs, côtes d'Albâtre, d'Émeraude ou de Nacre. Et pas moins de deux mers et un océan. Que demander de plus?
Et nous avons aussi un patrimoine culturel très riche, bien rénové aussi et mis en valeur par tous les moyens. En fait, c'est un état musée bientôt, hein? Exemple de l'importance de nos monuments. Le château de Versailles. Depuis près de 70 ans, il est utilisé dans les relations diplomatiques. On y reçoit les grands de ce monde, notamment les 250 ans là, de la création des États-Unis il y a quelques jours. Puis la première fois que Versailles a été utilisé en tant que outil diplomatique, c'est De Gaulle qui a reçu John Kennedy avec son épouse, qui en fait venait vraiment en France puisqu'elle était française.
Oui, il y a aussi le bouche à oreille, moi aussi, qui fonctionne pas mal et qui fonctionne très bien en tourisme. Ce sont les touristes qui en parlent le mieux. Vous avez aimé? Vous y reviendrez, pourrait-on dire.
Oui, et puis il y a tous les moyens possibles et qui sont utilisés en fait pour depuis des dizaines pour promouvoir tous les aspects remarquables de notre pays. Tout d'abord, il y a eu le guide Michelin pour guider les automobilistes. Il n'y avait pas de GPS ni d'internet. Le routard. Et depuis 20 ans, il faut savoir que le Tour de France, qui est vu dans le monde entier, survole les régions en hélicoptère et raconte l'histoire des monuments, des villes, des fleuves, des rivières, par un historien, et tout ceci est retransmis à la télévision. Ça donne envie. Et toi?
Alors moi, je vais vous dire quels sont d'abord les pays les plus représentés en tant que...
Exactement, vas-y.
Donc, ce sont d'abord nos voisins européens qui viennent en touristes. Les Hollandais sont venus très tôt. Les Allemands un peu plus tard, puis sur la pointe des pieds, hein, parce que Seconde Guerre mondiale terminée, encore dans les mémoires.
Hein. On ne sait pas ce qu'ils vont nous faire.
Voilà, exactement. Ils nous attendent au coin d'un bois. Puis le démantèlement de certains pays autoritaires comme l'Espagne ou les blocs de l'Est ont permis aux populations de venir chez nous voyager. Puis beaucoup plus loin, au-delà des mers, les Américains qui choisissent essentiellement Paris, et à noter que ce sont les plus gros dépensiers. De même, les Chinois, alors eux, ils ont très peu de vacances, donc ils arrivent par car entier et ils visitent très rapidement quand même, et surtout Paris. Hein. Les Japonais ont également une relation culturelle avec la France. Alors eux, ils développent étrangement ce qu'on appelle le syndrome de Paris, parce qu'ils ont une image idéalisée de la capitale, qu'ils ont certainement au Japon, on leur vend ça comme ça, et du coup, quand ils sont confrontés à la réalité de la ville, mais ils développent des angoisses, des peurs que les psychiatres ont nommé syndrome de Paris.
Et n'oubliez pas la gastronomie qui est très réputée avec les étoiles, hein, le guide Michelin à nouveau, mais aussi Goemio, le Petit Futé et bien d'autres. Les petits restaurants de village aussi qui sont toujours présents et bien fréquentés.
Oui, ces petits restaurants de village, car nos petits villages, il y en a 35 000 petits villages quand même en France, ce qui fait de la France le plus grand pays européen avec le plus grand nombre de petits villages. Et cette particularité a permis de mettre en lumière, à travers des émissions culturelles ou des jeux concours, certains villages qui sont devenus très vite surexposés quand même. Et c'est un des revers du tourisme, je trouve. Il faut faire très attention à ne pas perdre son identité.
Alors finalement, que peut-on en conclure de cette société où les loisirs sont omniprésents?
Bah finalement, on ne pourrait plus se passer de loisirs, je pense. Et dès qu'il y a un peu de temps libre, on se plaît à sortir de chez soi pour rayonner autour de sa région ou sillonner beaucoup plus loin. Le tourisme, c'est quand même une grande aventure de découverte, de curiosité, de culture. En fait, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Elle a juste une couleur différente.
Rediffusion d'une émission de Principe Actif. Une rediff, quoi.
De couples se sont formés sur la lambada de Kaoma en 1989. Ça tombe bien parce qu'avec Michel, on va vous parler tout à l'heure d'amour et sentiments dans les années 60-70.
On se fait un petit caprice ?
Si, tous les deux ? Ah oh bah d'accord, bon alors bon.
Terminus ! Tout le monde descend !
Caprice à deux. Un fromage si doux, si tendre, qu'on ne veut le partager qu'à deux. Caprice à deux,